La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il y avait des élections locales et régionales en Russie hier et elles marquent un peu plus encore le décalage qui s'installe entre le pays et sa capitale.
Oui, car si l'on se fie aux dernières dépêches de l'agence Interfax sur les résultats encore partiels de ces scrutins très variés, eh bien, difficile de ne pas constater deux tendances opposées. D'un côté, il y a le pays hors Moscou où toutes les élections de gouverneurs, par exemple, se sont soldées par la victoire plus ou moins confortable du candidat présenté par le parti président. Et de l'autre, il y a donc Moscou. On le savait d'ailleurs, la campagne pour le parlement municipal de la capitale avait complètement occulté toutes les autres, avec ses candidats indépendants empêchés de concourir et ses manifestations de soutien qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes tous les week-ends du début de l'été. Dans la région de Moscou donc, nous dit Interfax ce matin, des candidats de l'opposition sont en tête dans 19 circonscriptions sur 45, ce qui fait pronostiquer à l'agence que l'opposition pourrait représenter environ un tiers de la future assemblée municipale.
Et encore faudrait-il s'entendre sur le terme même d'opposition.
Oui, car les trois formations politiques qui devraient bénéficier de ces résultats électoraux, nous dit le site alternatif Medusa, ce sont le Parti communiste, la plateforme de gauche Russie Juste et le Parti social-libéral Yablako. Ce sont des partis qui représentent plutôt l'opposition à l'intérieur du système, selon Medusa. Une opposition compatible donc avec Russie Unie, le parti jusque-là hégémonique de Vladimir Poutine et aussi de plus en plus des formations qui se retrouvent à gouverner avec Russie Unie. D'ailleurs, dès hier soir, le maire sortant de Moscou, Sergueï Sobyanin, a dit au groupe de médias RBK tout le respect qu'il a pour les communistes, pour Yablako et pour Russie Juste, combien il pense aussi que cette diversité politique grandissante au sein du Parlement municipal devrait être bénéfique à son prochain mandat. Toujours est-il que lors des précédentes municipales, seuls 7 candidats issus de cette opposition-là avaient au final obtenu un siège dans la Douma moscovite. Cette fois, ce sera beaucoup plus. Et ça fait dire à Viedomosti que le parti au pouvoir a perdu Moscou. Les candidats soutenus par les autorités ont été battus dans plus de la moitié des circonscriptions où il n'y avait qu'un seul élu à désigner. Et même si les grosses circonscriptions devraient permettre in fine à Russie Unie de sauver les apparences et de garder la mairie. Alors forcément, on ne peut pas s'empêcher de se demander aussi si la déconvenue pour le pouvoir n'aurait pas été plus cinglante encore à Moscou si les leaders de l'opposition véritable n'avaient pas été empêchés tout bonnement de se présenter. Eh bien, pas forcément, à croire Daria Garmonenko de la Niezavisimaya Gazeta, car il faut tenir compte de l'abstention qui affiche un taux sidérant de 80% à l'échelle nationale. On peut bien sûr y voir le désintérêt des électeurs pour une élection sans réel enjeu, ou bien, comme la journaliste, on peut l'interpréter comme un échec de la stratégie mise en place à la veille du vote par Alexei Navalny. Le plus médiatique des opposants à Vladimir Poutine avait donné à ses sympathisants des consignes de vote soi-disant intelligents, vote utile donc, pour maximiser, disait-il, les chances de faire perdre le maire sortant. Ça a peut-être donné un peu plus de voix aux candidats communistes à Moscou, par exemple, mais ça a surtout décontenancé, refroidi certains moscovites qui sont restés chez eux, refusant qu'on leur dise pour qui voter, d'autant plus si c'était pour un communiste ou pour un autre représentant de l'opposition acceptable.
Et on revient à présent sur l'échec ce week-end des pourparlers de paix menés depuis un an entre les États-Unis et les talibans d'Afghanistan.
Oui, il y a une semaine, je vous le disais, la diplomatie américaine annonçait depuis Kaboul un accord de principe trouvé avec les talibans pour ramener la paix civile en Afghanistan et permettre le retrait militaire des États-Unis. Mais samedi, d'un tweet, Donald Trump a enterré tout ce processus. Il a annoncé la fin des négociations puisque les talibans n'ont apparemment aucune intention de faire cesser leurs attentats meurtriers qui ont fait une trentaine de morts, dont un soldat américain, rien que la semaine dernière. Mais ce qui retient l'attention du New York Times, c'est l'autre annonce de Trump samedi, l'annulation d'une rencontre secrète qui, on le découvrait, devait se tenir dimanche avec le gouvernement officiel afghan et des talibans sur le sol américain, et même pas n'importe quel sol américain, dans la résidence présidentielle de Camp David, le saint des saints diplomatiques, où ne sont reçus habituellement que des chefs d'État et où ont été signés de grands traités de paix. Des talibans à Camp David, l'idée même paraît inconcevable aux médias afghans, à commencer par la chaîne Tolo News, qui semble finalement plutôt soulagée de voir que les Américains renoncent à discuter avec le mouvement fondamentaliste.
Et pourtant, cette idée d'inviter des talibans à Camp David avait germé la semaine dernière dans le cerveau de Donald Trump en personne.
Oui, c'est encore The New York Times qui nous raconte la genèse de ce projet un peu délirant où l'on retrouve tous les traits caractéristiques de la diplomatie à la mode Trump. Ce côté impulsif, ce mépris des convenances et des symboles et surtout ce rêve tenace d'obtenir le prix Nobel de la paix. Cette ambition ardente qui pousse Donald Trump à rechercher le coup diplomatique qui va lui permettre de mettre en scène une vraie réussite sur la scène internationale. Ajoutez à cela le fait que le président a promis à ses électeurs il y a 3 ans de mettre mettre fin à la guerre en Afghanistan, de ramener les soldats américains à la maison. Dès lors, oui, l'idée de faire venir en secret des talibans à Camp David à 3 jours des commémorations du 11 septembre s'était imposée dans l'esprit de Donald Trump. Elle donnait, cette idée, des boutons à John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui avait argumenté contre le secrétaire d'État Mike Pompeo, qu'on pouvait aussi bien ordonner le retrait des Marines d'Afghanistan sans pour autant aller s'acoquiner avec des barbus qui ont du sang américain sur les mains. C'est peut-être bien lui, John Bolton, qui aura finalement eu le dernier mot. En tout cas, ce n'est pas demain que l'on verra les talibans serrer la main du président afghan Ashraf Ghani sur les pelouses de Camp David. Et les invités, décommandés au dernier moment, ne semblent pas avoir apprécié la manœuvre. BBC News nous cite le communiqué des chefs talibans hier, selon qui les Américains ont plus à perdre qu'eux d'un arrêt des négociations comme une menace d'attentat à venir. Le pire est peut-être donc à venir, mais selon le quotidien conservateur de Washington Examiner, quotidien conservateur donc, Donald Trump a eu raison d'annuler la rencontre de Camp David, qu'il avait d'ailleurs eu raison de vouloir organiser. Tout de même, nous dit The Guardian, cette reculade au dernier moment nous confirme que le président américain est un expert dans l'art de souffler le chaud et le froid quasiment en même temps, au risque de récolter la tempête.
Mais merci Camille Magnard.